Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de sport RTV Sport. Nous sommes ensemble pendant 1h30. Et là, ça va plaire à mes colistiers.
Ça attaque.
Ouais, Jean-Yves.
Oui.
Bonjour.
Bonsoir Lionel, bonsoir Valérie, bonsoir messieurs les invités. Pendant que j'y suis, je voudrais faire un petit coucou
non, trop tard.
À nos amis gardois qui nous écoutent de l'autre côté du Rhône et plus particulièrement une supportrice des Crocos de Nîmes. J'ai assisté au match hier, j'y étais.
Match de foot.
Donc oui. Bonjour mon petit Jean-Yves.
Bonjour Lionel.
Tu vas bien ?
Ben écoute.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ben ouais.
Tu ne nous as pas manqué.
Moi non plus, ça ne m'avait pas manqué de te voir. Allez, suivant.
Et Valérie, salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Toujours fidèle au poste.
Hein. Oui, toujours.
Voilà. Alors par contre, pour Jean-Yves, en fait, on a choisi deux disciplines qui vont vraiment lui faire plaisir. Ouais. Parce que Jean-Yves va pouvoir pour une fois monter au 7e ciel.
Et s'envoyer en l'air.
Hein, Jean-Yves, ça a vu un peu la transition. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du LM.
Le type, ça fait exactement une semaine qu'il pense à ça. Il l'a écrite, cette blague pourrie là, non ?
Même pas.
Non, bravo.
C'est même pas une blague pourrie, en fait.
Ben non, et tu vas...
On a vraiment pensé à toi.
Ben oui, parce qu'on va parler...
Du LM. Donc, tu sais ce que c'est, l'ULM ?
J'ai l'impression que tout le monde me regarde là.
Oui.
Ouais, je sais, ultra léger motorisé.
Ah. Voilà, et donc on va en savoir un petit peu plus grâce à nos deux invités. Alors tout d'abord, Jean-Pierre Sketana, bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Nouveau président du club.
Oui, en effet, c'est tout récent, oui.
Tout récent, tout jeune aussi.
Tout jeune, non, pas si jeune que ça.
Bon, il a l'air jeune, mais...
Il fait jeune, parce qu'il...
Contrairement à toi, tu vois, ouais. Il a l'air jeune et...
Mais
il...
c'est vrai.
Bref.
Et puis, tu es venu avec ton secrétaire, qui est également en charge de l'organisation, et il occupe un poste très important, c'est la mécanique, hein, mécanicien. C'est Jean-Louis et c'est Eric. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir. Content d'être là.
Écoute, nous, on est ravis de vous accueillir déjà tous les trois,
parce
qu'on a un troisième invité, parce qu'on parlait justement de ciel, et avec le Vilivol de Carpentras, ce sont les planeurs, donc ce sont des disciplines... qui peuvent se ressembler un petit peu. Il y en a une qui fait un peu plus de bruit que l'autre.
En effet.
On va pouvoir justement en parler. Et nous sommes ravis d'avoir le secrétaire du club, c'est Vincent Fabre. Bonsoir Vincent.
Bonsoir à tous.
Voilà messieurs, donc on parlera de tout ça dans quelques instants. On aura également en duplex téléphonique Jérôme Alonso du RCC 13 qui nous parlera du match d'hier. On ne va pas trop en parler nous parce qu'ils ont pris la tôle.
Moi, je vais en donner les résultats quand même.
Ouais, on donnera les résultats, ouais. Mais
il y a des excuses.
Il y a des excuses. Non, mais oui, on va essayer de retrouver des excuses. Et juste après la pause de 19h, on aura Laurent Venditelli,
oui.
Que l'on salue et qui a donc participé à l'organisation de la deuxième édition du Vélo Passion.
Ouais, Avignon Vélo Passion, succès malgré le temps plus que pourri et énorme succès du BMX Indoor de samedi soir, salle comble, un spectacle de fou vraiment. J'ai envie de revenir avec Laurent là-dessus parce que j'y étais et pour le coup
et je crois que t'as concouru aussi en BMX, hein.
Ouais, mais avec les roulettes.
Bon, mais écoute, on reviendra là-dessus justement avec ces deux duplex téléphoniques. Et Valérie, on va parler des résultats de ce week-end, mais bon, vu le mauvais temps, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
Oui,
aussi.
Tout ce qui était sport, on va dire extérieur, hein, les trois quarts des manifestations ont été annulées en raison des fortes pluies. Hein. Donc je vais commencer avec de l'haltérophilie avec nos amis de Monteux.
Les avait reçus il y a quelques semaines.
Voilà. L'équipe de Monteux est devenue ce week-end championne de France.
Bravo.
Division nationale.
Franchement, chapeau.
Tu te rappelles qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient premiers, mais qu'il fallait absolument
qu'ils
gagnent ou qu'ils soient deuxièmes pour.
Une deuxième place aurait suffi et ils ont gagné la manche, ouais, absolument.
Donc, je voulais juste féliciter Anthony Coulet, qui une fois de plus a fait le spectacle en sous-louant.
Il n'a pas coulé.
Non. 156 kilos à l'arraché et 211 kilos en épaulé jeté. Donc, ils ont battu l'une des équipes de Rosendael et de Rosenthal, je ne sais pas où c'est, et de Comines. Ça, c'est dans le nord. Donc, je donnerai les noms.
Je crois que c'est en Bretagne la première.
Oui, c'est possible. Voilà. Il y avait aussi du basket avec les résultats de l'ABC. Donc en U11 filles, Cavaillon donc, recevait Carpentras et la Cavaillon s'est imposée 18 à 11. En U13 filles, Carpentras recevait Nyons et la Carpentras donc, s'est imposée 48 à 38. En U13 garçons, Carpentras recevait Lille-sur-la-Sorgue 59 à 36. En U18 filles, Carpentras recevait Orange 60 à 32. En U17 garçons région, Carpentras se déplaçait à Digne-les-Bains et Carpentras s'est imposé 52 à 29. En senior fille, Carpentras recevait Sorgue. Oui, je t'écoute.
Donne le résultat et je ferai un petit commentaire derrière.
Carpentras recevait Sorgue, je dis donc 45 à 42 en senior garçon.
Juste pour revenir sur les filles de Carpentras contre Sorgue, un match entaché de quelques contestations, quelques irrégularités, voilà, apparemment c'était un arbitre de Carpentras qui a arbitré ce match ô combien important et ça s'est pas super bien passé d'après mes sources, voilà.
Donc Carpentras donc, s'est imposé 45 à 42 en senior garçon. Carpentras se déplaçait à Avignon et Carpentras s'est incliné sur le score de 47 à 53. En National 1, justement, Sorgue. Notre équipe de Sorgue recevait, alors je ne sais pas si on dit Jette-Vosges ou Jette...
Alors c'est Jette-Vosges, c'est l'équipe voilà. D'Épinal.
66 à 83, donc Sorgue a fait une petite contre-performance, on va
et
dire.
Une énorme contre-performance, ouais. Apparemment, là pareil, j'ai eu les gens de Sorgue au téléphone, il n'y a rien qui a marché, ça arrive une fois dans la saison, tu as un match pourri, c'était celui-là, il n'y a absolument rien qui a fonctionné. Ils avaient prévu de cramer un joker du côté de Schuffel le week-end prochain en envoyant une équipe un petit peu en dilettante. Et bien là, du coup, le mauvais résultat de ce week-end les oblige presque à aller faire un résultat du côté de Schuffel. En tout cas, d'aller tenter de se racheter du côté de Schuffel. Ça va être compliqué parce que Schuffel survole, survole le championnat. Mais pourquoi pas, on sait que cette équipe de Sorgue est un peu en réaction et ça pourrait très bien le faire.
Ils sont capables.
Ouais, bon, en tout cas, ça met pas en péril la saison puisqu'ils sont toujours sixième avec toujours un point d'avance sur le septième, me semble-t-il.
Oui, et ils sont quand même qu'à trois petits points des troisième, quatrième, cinquième. Ouais. Donc vraiment, mais ils sont quand même assez loin, comme tu disais.
Schuffel et Saint-Quentin. Schuffel, c'est complètement intouchable, mais pourquoi pas faire une perf du côté de Schuffel justement.
Ouais, surtout que, je veux dire, ils pouvaient briquer, pourquoi pas, la troisième ou quatrième place, hein, s'ils avaient fait des bons résultats.
En jouant contre
Schuffel. Pourquoi
pas, en jouant contre Schuffel ou Welsheim, c'est un truc...
Ils ont quand même été capables, il ne faut pas oublier une chose, de battre en Coupe de France de sacrées équipes, hein, comme Fosse.
Une équipe de pro, bien sûr.
Ah, oui. Et ils ont failli même, ils ont quand même fait un très bon match la dernière fois aussi.
Ouais, mais Lionel n'était pas là, tu te rappelles, qu'il nous a oublié.
Enfin, en fait, non, mais c'est pas ça, c'est parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas là et c'est pour ça qu'ils ont perdu. le prochain coup, il faudra vraiment que je sois là. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais.
Allez, je vais continuer avec du handball avec Mazan. Donc, en championnat de territoire, l'entente Carpentras-Mazan donc, s'est imposée 27 à 12 face à Cavaillon. En moins de 17 ans, Mazan là, s'est incliné 31 à 14 à la garde. Et en moins de 15 ans, Élite Paca, Mazan s'est imposé 25 à 20 face à la garde.
L'entraîneuse de cette équipe des moins de 15, c'est Cynthia Fourreau, oui. Qui joue en première à Mazan en National 2.
Et qui ont été récompensés de la médaille de l'Assemblée, donc l'équipe 1, enfin de National 2 de Mazan, ce week-end, donc par... par le député Andrien Morenas. Donc félicitations à ces filles. En football, donc en régionale 1, féminine, Carros Monteux, 0 à 2. Monteux continue. Donc au classement général, les Montiliennes sont 6e, à un tout petit point des 4e et 5e, et à 4 points des 3e. Donc vraiment aussi là, des très bons résultats. En Ligue Méditerranée, en régionale 2, Poule C, Carpentras recevait Draguignan et Carpentras s'est incliné sur le score de 1 à 2. Au classement général, Carpentras est 6e. Il y avait aussi championnat Grand Vaucluse, donc très peu de matchs. Hein, District 3, Poule B, Bédaride recevait Dantel, un partout, Bédaride est 13e et avant-dernier. En rugby à 13, on va recevoir, enfin, on aura tout à l'heure Jérôme au téléphone. Élite 2, Carpentras se déplaçait en match retard à Villegayen et il s'est incliné lourdement sur le score de 44 à 4.
Ouais, c'était Entraigue a fait
un
la
match
même.
De 8e journée.
Ouais, j'allais
journée
dire.
Était...
Oui, j'allais
vas-y,
dire.
Non, vas-y.
Et, au classement général, Carpentras est 3e et enfin en 8e de finale, Challenge Hélière, Entraigue qui se déplaçait à Villefranche s'est incliné sur le score de 48 à 10. Là aussi, très, très.
Ouais, là,
difficile.
C'était c'est la coupe Élite 2, la Coupe de France Élite 2, la Coupe Hélière, c'est un peu moins important. En tout cas, c'est un truc que tu peux jouer quand tu es bien au championnat. Là, c'est pas le cas. Donc maintenant, les Entraigois vont pouvoir se concentrer complètement sur le championnat, essayer de s'en sortir et de se qualifier.
Bah, surtout qu'Entraigue, au niveau du rugby, bah, ils ont joué contre Villegayen, et là, ils ont également pris l'atoll. Parce que nous, on parle de Carpentras, hein, qui a pris 44 à
4.
À 4, mais Villegayen qui a gagné contre Entraigue 36 à 0.
Ouais, ouais, alors déplacement dans des conditions dantesques, ils ont été retenus par la neige, ça a été un peu compliqué, ça excuse pas. Hein.
Non, non. Mais ça perturbe
voilà,
quand même quand il y a des problèmes sur la route.
Cette Coupe de France, cette Coupe Georges Hélière, c'était pas une priorité pour aucune des deux équipes d'ailleurs. Et ben voilà, c'est maintenant, c'est derrière, il va falloir. Se concentrer sur le championnat. À noter que c'est la première défaite officielle de Carpentras ce week-end. Un dernier mot en rugby à 13 pour le SOA qui évolue en Élite 1. Mauvais temps pour le SOA qui a encore été défait sur sa pelouse par l'équipe de Villeneuve-sur-Lot. J'ai oublié le score.
Et au classement général, ils sont combien ?
Avignon ?
Oui.
Tu veux pas qu'on change de sujet, s'il te plaît ?
Non, mais tu peux me le redire, s'il te plaît ?
Non, non, allez, sujet suivant.
C'est
sinon,
pas,
on peut
ça.
Parler de Morgan Parra. Non, allez, on va...
Non, on peut parler du Stade Clermontois en rugby à 15. On n'en parle
du
jamais.
Du Stade Clermontois.
Non, mais pour l'instant, je vais finir avec les sports locaux. Hein.
Non, non, mais bien sûr, mais comme il a pas envie d'en parler, je voulais en parler un petit peu. Vas-y, Valérie.
Avignon est 9e en Élite 1. Donc voilà.
Ouais, saison super compliquée pour mes copains du SO.
Allez, je continue avec du judo. Les résultats du week-end pour le club de judo de Mazan. Pas de médaille, mais de très 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 belles perspectives pour l'avenir. Donc ce week-end, à Vitrolles, a eu lieu le championnat régional minime qualificatif pour la Coupe de France. Marius Fuentes, en moins de 50 kilos, termine 5e mais réalise une très belle compétition. Il gagne ses deux premiers combats avec autorité avant de s'incliner en quart de finale sur décision contre le futur vainqueur de la catégorie. Donc... quand même, chapeau. Hein. Il remonte ensuite tous les tours de repêchage en gagnant par Hippon avant de perdre en place de 3e à cause d'erreurs sur le Kumikata. C'est ça ?
Kumikata.
Kumikata. C'est donc de fait le prix de qualification pour la Coupe de France. Mais son parcours annonce de très belles choses pour les années à venir. Lui qui n'est que minime première année, on le précise. Il y avait aussi Julien Spado en moins de 66 kilos pardon, qui perd en quart de finale malgré une très belle performance en 16e et 8e de finale. Il y avait aussi Sacha Journé en moins de 66 kilos et Ilan Chaban en moins de 55 kilos qui n'ont pas démérité mais qui ne passeront pas les premiers tours. Donc bravo aussi à tous ces athlètes.
Ben c'est super.
Voilà.
Il y avait autre chose ?
Ben, je ne voulais pas parler, puisque vous allez en parler justement du BMX qu'il y a eu ce week-end donc, à Avignon. Donc, comme on va avoir Laurent au téléphone, je ne voulais pas en parler du tout. Donc,
bon, si tu n'as pas envie d'en parler.
Non, et en plus,
non,
je
non.
sais que notre
non,
ami. Voilà.
Juste,
Jérémy,
la victoire samedi soir en Open, c'est Rancurel. Qui viennent d'un club du Puy-de-Dôme, me semble-t-il,
centre,
ouais,
centre.
C'est ça.
Un club auvergnat.
Qui a remporté cette course de BMX. Mais vraiment un super bon spectacle. On y reviendra parce que je me suis régalé. J'ai découvert des champions. J'ai découvert un sport, en fait. Je croyais que c'était un amusement pour les enfants. Et en fait, c'est un vrai sport avec des mecs super affûtés. Super,
et tu t'es rendu compte qu'on pouvait faire des trucs affolants avec un vélo.
Ah non, mais c'est plus qu'affolant. Au-delà du BMX, en plus, il y avait du freestyle entre les manches et on a assisté à des figures juste extraordinaires. Quoi.
Alors, c'est Landès. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a un P avant le D.
Ouais. En tout cas, je sais que c'est dans le Puy-de-Dôme.
Voilà.
Mais
voilà. Bon, enfin, quand même, on va peut-être donner, si tu veux, juste le tableau d'honneur. On peut être rapide. En minime fille, donc la première, c'était Moustier de Sainte-Victoire. En minime garçon, il y avait Frisarin. C'est un Italien. Je savais même pas qu'il y avait des Italiens, mais vraiment, il nous l'avait dit. C'est vrai.
Il y avait un plateau de fous. Il y avait pour la petite histoire un champion olympique. Connor, il y avait aussi le champion du monde, André. Il y avait chez les filles, il y avait deux ou trois pointures. Il y avait Martinez de Sarrien. Enfin, il y avait du beau monde.
Voilà.
Du très beau monde.
Je continue en minime garçon parce que Clément, donc de Perde, a fait cinquième. Chez les cadettes, c'est Chavo donc de Zéronine, donc qui est terminé première, et Garcia de Sarrien a fini troisième. Chez les cadets, c'est Gasparoli, donc encore italien, qui a fini premier. Perne, donc c'est Helleux de Perne qui a fini cinquième. Et Marzari aussi qui a fini sixième de Perne. En junior, alors c'est Bodzen de Bordeaux qui a terminé premier. Jarre de Cavaillon, cinquième. Perronnet de Perne, sixième. Pinsard de Saharian, septième. Chez les femmes, 17-29 ans, c'est Apka de Roubaix qui a terminé première. Chez les hommes, 17-29e, eh ben c'est Ricourt de Vitrolles, Gonzalez de Perne et André de Cavaillon. En élite femme, Mère de Compiègne a fini première. Bonnet de Carpentras a fini alors quatrième et Bonnet de Sarrien a fini cinquième. En élite homme, enfin, Rand Curel, tu l'as dit, de Lampes, a fini premier et le premier cavaillonné, c'est André.
Voilà. Ouais, c'était sur la course du dimanche, ça. Hein, puisque la course dont je te parlais, c'était celle de samedi soir, c'était l'Open d'Avignon. Ouais, c'était deux événements différents, enfin avec les mêmes pilotes. Et chez les hommes, c'est Rand Curel qui fait le doublé, du coup, qui prend la course élite et l'Open. Chez les femmes, c'est Boivin qui emporte l'Open d'Avignon. Et voilà, tu l'as dit, Mère qui fait le.
Et Martinez qui termine de Perne deuxième.
Ouais. Voilà. À noter juste la superbe santé du BMX vauclusien, coup, parce que on a vu les vauclusiens de Perne, de Sarrien et des clubs cavaillonnés même, quasiment aux avant-postes pendant les deux jours. Là, c'est voilà, bravo.
Bon, tu t'es régalé alors.
Ah, je me suis régalé, j'en reparlerai avec Laurent tout à l'heure, mais vraiment, ouais, j'ai pris un pied extraordinaire.
Bon, allez, on fait une petite pause. Juste après, on aura Jérôme Alonso pour parler de rugby à 13. J'aimerais bien aussi qu'on revienne un petit peu sur le match de l'équipe de France de rugby à 15, hein, qui a eu lieu vendredi, parce que c'était un match qui était un peu compliqué. Théo, il veut me couper la chic, c'est pas grave, parce que je voulais juste rajouter aussi qu'au top 14, Clermont est deuxième, hein, parce que personne n'en parle. Voilà, juste derrière le Stade Toulousain. Bon, ils n'ont pas joué ce week-end parce que je pense qu'il y avait l'équipe de France qui jouait, mais en tout cas, Clermont a 52 points et le Stade Toulousain 54 points.
Ne me branche
pas. Voilà. Il est parmi.
Mais par contre, l'équipe de France a joué vendredi. Il y a eu un super match de l'Angleterre.
Ouais.
On y reviendra juste après.
On a vu tes Clermontois à la manœuvre, on aurait dit mon grand-père.
Bon,
ton ouvreur, voilà. Allez.
Non, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts, il faisait trop froid.
C'est
allez,
ça.
À tout de suite.
Allez.
Big Flo et Oli, tu connais, non?
Petit biscuit.
Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses.
Ne pense plus à rien, rien. T'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe, je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder.
pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses, ne pense plus à rien, 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 rien. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. Mais j'écoute rien, rien, rien. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. Mais j'écoute rien, rien, rien. Ça ira mieux demain.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio après cette petite pause musicale. J'en profite pour saluer mon petit Théo que j'ai pas salué tout à l'heure. Ça va Théo ?
Ça va, en pleine forme.
Bah ça se voit. En tout cas, ça fait plaisir. T'es pas gentil. Parce que j'ai pas... Toi, on nous voit pas, donc voilà. Bon, alors on va parler rugby à 13 parce qu'en haut au téléphone, on a Jérôme Alonso. Bonsoir Jérôme. Est-ce que tu nous entends, Jérôme ?
Oui, je vous entends.
Salut, Jérôme. Tu vas bien ?
Bonsoir. Ça va, oui, merci.
Bon, tu t'es remis un petit peu de ce week-end. Donc, vous avez rencontré Villegayenc. Vous êtes déplacé chez eux. Match compliqué ?
Oui, match très, très compliqué. On est tombé sur une très, très grosse équipe de Villegayenc qui était, pour une première fois de la saison, au complet avec... avec toute leur armada d'étrangers et de joueurs, d'anciens joueurs d'élite, donc ça a été ouais, plus que compliqué même.
Et est-ce que vous vous attendiez justement à ce score ? Parce que bon, la semaine d'avant, ils avaient rencontré Entraigues, et Entraigues avait pris aussi une sacrée raclée avec 36-0, donc ils avaient pris Fanny. Vous, vous marquez quelques points, mais c'est vrai que ça reste difficile. Vous attendiez vraiment à cette dureté ?
Franchement, non, je m'attendais pas à rencontrer une équipe aussi forte dans tous les domaines, que ce soit physique, technique. On a été. Après, on a tenu 30 minutes, puisque à la 30e minute de jeu, il y avait toujours 6-0, où on a été en position de marquer un ou deux essais, et avec la précipitation, on n'y est pas arrivé. Mais après, le problème, c'est que physiquement, on a flanché dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, où on prend 4 essais. Donc on arrive à la mi-temps à 28-0 et c'est compliqué dans les têtes, et c'est compliqué surtout physiquement puisque c'était une véritable machine et que les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, nous on était aussi pas mal handicapés. Donc je pense qu'au complet on aurait pu rivaliser un peu plus, mais c'est vraiment quand même une très très grosse équipe. J'ai vraiment été surpris de leur qualité de jeu.
Jérôme, on a l'impression que cette équipe de Villegayenc là, tu l'as dit, c'est une machine. Ils ont mis un petit peu de temps à se lancer, mais bon, quand tu regardes la composition des équipes là, Limongi, les frères Anderson, dont un qui a joué avec les Dragons il y a encore pas très longtemps. ouais, il faisait encore la saison dernière. Enfin, il était encore sur le terrain en octobre. On se demande même comment ils font et pourquoi ils essaient pas d'évoluer en Elite 1, parce que du coup ils dominent complètement le championnat d'Elite 2 et presque ils faussent un petit peu la donne, non ?
Ouais, ouais, c'est un peu le raisonnement que j'avais sur le chemin du retour avec un des présidents. C'est après moi qui ai une équipe comme ça en élite 2, ça me dérange pas du moment que s'il soit champion, il monte en élite 1. Maintenant, c'est pour tous les ans être champion en élite 2 et avoir cette équipe-là, ça fausse le championnat, comme tu dis. Et en plus, ça décourage les autres équipes parce qu'à ce moment-là, tu te bats juste pour être finaliste. Parce que tu sais très bien que pour les battre, il faut qu'ils soient dans un très très mauvais jour et toi dans un grand jour. Et même ça, je pense que ça va être compliqué. Puisque, comme tu l'as dit, ils ont quand même Anderson qui joue l'an dernier au Dragon, son frère qui a joué pas mal en Super League, McKizzy qui a aussi joué en Super League. Donc à un moment donné, à ce niveau-là, c'est sûr que ça fait la différence. Donc oui, c'est un peu dommage pour notre sport. Maintenant, comme j'ai dit, bon, on verra bien. Peut-être qu'ils monteront en élite 1 s'ils sont champions, mais je pense pas.
Comment tu fais du coup, Jérôme, pour préparer ton groupe dans la semaine qui précède ce match-là? Parce que je te connais, je connais Gaël et j'imagine que ça doit pas être simple de préparer ton groupe en sachant que de toute façon, dans le meilleur des cas, tu gagneras pas et tu limiteras la casse. Mais voilà, c'est un peu galère, non?
Non, c'était pas galère parce que bon, comme on était sur quand même une bonne série où on avait quasiment, à part un match en coupe de l'ordre, Georges Elière qu'on avait perdu, mais sinon on n'avait pas perdu. Donc les joueurs, nous on savait que ce serait dur, les joueurs savaient que ce serait dur, mais ils étaient vraiment partis dans un esprit pour faire un gros combat. Et c'est, comme je te dis, c'est la chose qu'on a faite pendant 30 minutes, tant que physiquement on a été au point. Et après malheureusement, on a plongé. Mais non, ça n'a pas été compliqué, au contraire, les joueurs étaient impatients de faire ce match. À la fin du match, on a vu que les joueurs étaient très très déçus de leur performance, alors que bon, franchement, on ne pouvait pas leur opposer bien grand chose, vu qu'on avait quand même une charnière inédite. On avait Alexis Rodriguez qui n'était pas là, donc ça fait pas mal de petits soucis en plus.
Justement.
Mais je pense que les joueurs vont se servir de ce match, et nous aussi, pour travailler, essayer de combler le fossé qui nous sépare de ces équipes, même si on sait que avec l'effectif qu'on a, sans manquer de respect à mes joueurs, on n'arrivera jamais à combler cet écart. Puisque comme tu disais, ils ont quand même 4 joueurs étrangers hors normes, et après ils n'ont que des joueurs quasiment qui ont tous joué en élite. Hein, chose qui n'est pas le cas chez nous.
Justement, Jérôme, c'est ma dernière question. Est-ce que tu payes pas du coup le manque de profondeur de ton banc et de ton effectif là sur des trucs comme ça? Parce que du coup, enchaîner les gros matchs comme vous les enchaînez finalement avec énormément de vaillance, énormément d'investissement, au bout d'un moment, tu payes contre ces équipes-là et c'est ce qui t'empêche probablement de passer le cap, non?
Oui, tout à fait, oui, ça, ouais. Encore une fois, on est conscient que c'est notre problème, justement, comme tu dis, on joue quasiment tous les week-ends avec la même équipe.
Ouais, c'est ça.
Et comme tu dis, on a gagné beaucoup de matchs avec notre courage et notre cœur, mais au bout d'un moment, les organismes sont fatigués et on manque un peu d'essence. Maintenant, on savait que ça allait être dur du moment qu'on a commencé à perdre Maxime Sissirko sur blessure. On a eu pas mal de pépins avec Ludo Mouton. Maintenant, c'est Jimmy Ave, c'est Hugo Bravo. Donc, c'est sûr que si on avait eu plus de profondeur de banc, on aurait plus fait tourner et on aurait évité certainement quelques blessures.
Mais Jérôme,
comme ça, on sait que cette saison, il va falloir faire avec, il va falloir serrer les dents. Et après, on va commencer à travailler pour la saison prochaine, pour étoffer le groupe et avoir justement une profondeur de banc et une concurrence encore plus importante.
Ouais, mais Jérôme, par rapport à ça, objectivement, tu aurais ton effectif au complet? Vous auriez gagné?
Non. Non.
Non, franchement, non, voilà. Il faut pas se voiler la face, je pense pas.
Donc on est d'accord.
Après,
donc
je pense pas, j'en suis sûr. Maintenant, je pense qu'on n'aurait pas pris 40 points.
On est d'accord.
Je pense qu'avec l'équipe au complet, on les aurait accrochés. D'ailleurs, on a discuté, puisque moi, le président de Ville-Gaillen est un ami, puisqu'on était en sport-études ensemble avec Gaël, et ils ont quand même, pendant les 30 premières minutes, ils n'étaient pas sereins du tout, et même sur le banc, ils nous l'ont dit, quoi. Ils nous ont dit, les 30 premières minutes, c'était nos 30 minutes les plus difficiles de la saison. Donc ça prouve qu'on a quelque chose à leur proposer, mais même en étant complet, je pense qu'on aurait, sur la distance, on n'aurait pas tenu, parce que bon, eux, quand ils font des changements, c'est toujours le même niveau qui rentre, et au bout d'un moment, ça use les joueurs, quoi.
Mais justement, il n'y a pas un problème de fond par rapport à ça, parce que là, vous êtes troisième au niveau du classement, donc tu dis qu'effectivement, vous avez du mal à faire tourner l'effectif, mais tu as un effectif, franchement, qui tient la route, parce que pour être troisième avec l'effectif que vous avez, Ben franchement, chapeau bas. Par contre, on a Bao, alors si le classement est à jour, hein, Bao qui est premier, Ville-Gayenne qui est deuxième. Ce sont deux équipes qui ont le niveau d'être en élite 1, mais qui ne veulent pas forcément monter en élite 1. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ben, vous ne pourrez jamais monter en élite 1 si le règlement ne évolue pas.
Tu touches là le
non mais voilà à un moment
tu touches là le la faiblesse de cette fédé et
ouais, mais ça pose quand même un problème parce que Carpentras qui a l'ambition est bloqué parce que certains ne veulent pas monter. Il n'y a pas possibilité justement au niveau de la fédé de revoir un petit peu l'organisation.
Ça je te le laisse parce que moi ça fait 40 ans.
Le problème comme j'entends rigoler.
Mais non parce qu'on le sait toi et moi Jérôme que c'est un peu pipo et bimbo là et que voilà, tu fais ce que tu veux, tu
après,
peux être...
On est peut-être la seule fédération au monde où, à part dans les ligues fermées, comme la Super League, et encore maintenant il y en a un, ou le football américain ou quoi, on est le seul sport où il n'y a pas de montée et de descente. C'est uniquement sur un projet financier. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai un mécène qui arrive à Carpentras et qui me donne, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais 300 ou 400 000 euros de budget.
Allez, on lance un appel.
Même si je ne suis pas champion de France, je peux monter. Donc ça fausse un peu le sport.
Ça fausse le sport.
Et après, ce qui fausse d'autant plus le sport, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que les gens qui sont champions ne montent pas. Donc à un moment donné, c'est vrai que ça, je pense que ça décourage pas mal d'équipes et pas mal de dirigeants aussi, parce que les dirigeants de Carpentras font du très bon boulot. Mais on sait très bien qu'avec les finances qu'on a, si on n'arrive pas à franchir un palier, on ne pourra jamais être champion. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc bon, on se bat avec nos armes, on est en train de structurer bien, enfin les dirigeants sont en train de bien structurer le club. On gravit les étages petit à petit et j'espère que déjà l'an prochain on aura franchi un palier et on va aller doucement. Mais nous, notre objectif, c'est clair, c'est dans 3 ans minimum, et enfin dans 3 ans minimum, oui, 5 ans maximum, essayer de remonter en élite.
Mais en tout cas, franchement, avec l'équipe que vous avez, ben, vous faites un super boulot. Ça, quand même, on venait quand même vous le dire, parce que c'est vrai que être troisième avec cet effectif-là, bon, chapeau bas quand même. Prochain match.
Merci beaucoup. Alors, prochain match, là, ce week-end, ben, on va recharger un peu les batteries, puisqu'on ne joue pas. Le prochain match, ce sera le 14 février, me semble, oui, à Ferrals. Donc un gros match aussi.
Ouais, là, on est un peu dans le même cas de figure là, non ?
Donc là, il faudra tout faire pour l'emporter.
On est un peu dans le même cas de figure avec Ferral, ça, ils ont pas mal recruté à l'intersaison. Et ça va être un gros match aussi, non ?
Bien sûr, oui. Oui, tout à fait, oui. Ferral ça a une très bonne équipe en plus. Bon, c'est une région où ils ont pléthore de joueurs, donc c'est pas comme chez nous où on fait les fonds de tiroir quand on a un problème pour aller chercher des joueurs. Eux, il y a 50 bonhommes à Lézignan, donc du moins qu'ils
ont la réserve.
Ou 25, ils vont tous après à Ferral, donc c'est sûr qu'ils ont une très bonne équipe. Maintenant, je pense quand même que c'est plus à notre portée et on ira à Ferral vraiment cette fois avec l'esprit de gagner. Et là, si on gagne pas, on pourra peut-être s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Super. Bon, écoute, merci beaucoup Jérôme Alonso, co-entraîneur du RCC 13. Bonne chance pour votre prochain match dans 2 semaines et reposez-vous bien. À bientôt Jérôme.
Merci beaucoup.
Salut Jérôme. Merci. Ciao. Ciao, ciao.
Au revoir.
Allez, on fait une petite pause musicale.
next to me. 'Cause baby, your love's just like ecstasy.
Sport sur RTVFM.
Voilà, de retour dans les studios de la radio RTVFM. Bien sûr, on est en direct sur le 102.2. Jean-Yves, on pourra nous réécouter.
Et on pourra nous réécouter mercredi matin de 6h30 à 8h. Et à partir de mercredi après-midi, jeudi, on ne sait pas, quand tu voudras bien mettre le podcast en ligne avec la photo.
Voilà, le podcast, bien sûr, qui est téléchargeable, vous pourrez le retrouver, comme tu disais, sur la page Facebook et sur le site rtvfm.net. Alors, nos invités, on va parler aérien aujourd'hui avec Jean-Pierre Scatena, le nouveau président du club ULM Carpentras. Rebonsoir Jean-Louis, Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
J'ai un peu de mal avec les gens ce soir, parce qu'il y a son coéquipier Jean-Louis cette fois-ci, et Cyril qui est secrétaire en charge de l'organisation des manifestations du club et mécanicien. Rebonsoir Jean-Louis.
Oui, salut.
Et on va parler après dans un deuxième temps de Vélivol avec Vincent Fabre, le secrétaire du club. Rebonsoir messieurs.
Rebonsoir.
Donc bonsoir. L'ULM, tu disais très bien Jean-Yves tout à l'heure que tu connais bien, c'est ultra léger motorisé. Tiens, Jean-Louis, mais quoi d'autre ? Ultra léger, mais c'est quoi un ultra léger motorisé ?
Alors, qu'est-ce que c'est une ultra léger ?
Tout est ULM alors ?
Pardon ?
Tout est ULM ?
Du moment que c'est ultra léger.
Écoute, à partir du moment où il y a un moteur, un bout de toile et quatre bouts de tube, c'est bon, ça marche, quoi.
Ça vole.
C'est-à-dire, c'est les balbutiements de l'ULM, c'était vraiment quelque chose de sommaire, quoi. Le drap de lit avec quatre bouts de tube, puis ça a démarré comme ça, mais il y a très longtemps. Donc, on est resté un petit peu là-dessus, sur cette impression dans le public, alors que maintenant, nous arrivons avec des engins vraiment perfectionnés. Ce sont des petits avions. Quand je dis petits, c'est relatif, hein. Petits avions qui volent très très vite, très longtemps, avec une grande sécurité. Voilà pour le moment, disons, cette grosse différence entre le début et actuel.
Parce que là, tu parles d'avion, mais c'est vrai que j'ai vu aussi des personnes qui étaient assises sur un siège avec voilà, aussi, une aile derrière, un moteur derrière et une tour de parapente. C'est un ULM, ça aussi ?
Oui, tout à fait. Oui. Il y a 6 catégories d'ULM.
Oui.
Donc, il y a la classe 1 qui sont les paramoteurs. Ensuite, vous avez les pendulaires. La classe 3 qui sont les multisaxes, donc ceux que nous avons, nous, sur Carpentras. Et puis, les autogires. Alors, autogire, c'est les tondeuses à gazon. Enfin, excusez-moi, c'est pas péjoratif, c'est sympa. L'autogire, ça ressemble à un hélico, vous voyez, mais c'est une aile qui porte. Quoi. C'est pas un hélico. Bon, ensuite, vous avez la classe 5 qui sont les dirigeables, c'est-à-dire donc les ballons. Montgolfier par exemple, et puis les hélicos ULM qui sont en classe 6. Voilà, donc il y a 6 catégories. Donc là, si vous permettez, bon, moi je préfère rester dans la catégorie qui nous importe le plus, c'est-à-dire la classe 3. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ce sont des petits avions, parce que c'est pas trop le format, parce que ça ressemble vraiment de près. Si on met un avion et un ULM côte à côte, on voit très peu la différence.
Alors justement, il y a quand même une différence. Parce que je sais que pour les avions, il y a des parcours bien précis qu'il faut avoir, des hauteurs particulières. Est-ce que vous avez les mêmes contraintes ?
Alors ça, c'est la réglementation aérienne qui est valable pour tout ce qui vole, en fait, pour tous les aéronefs. Indépendamment de ça, cette réglementation donc, s'applique à tout ce qui vole. Je le répète, par rapport à ça, on va avoir en plus, je me perds un petit peu... On va voir la... Je reprends mes esprits, je reprends le fil. Mmh. On a la réglementation aérienne qui va nous permettre de voler selon certaines règles. Et ensuite, on a vraiment la particularité de l'ULM. L'ULM, qu'est-ce que c'est ? C'est un avion
qui fait grosso modo moins de 500 kg. Et en ULM, on ne peut voler que en vol à vue, vol de jour. On doit. Quelle est l'autre particularité ? Vol à vue, deux jours uniquement. Et le troisième point, je crois qu'on a fait le tour.
D'ailleurs, on monte qu'à deux, on peut emporter qu'un seul passager.
Voilà,
un
pilote de passager. C'est du biplace maxi.
Pour un biplace, bien sûr.
Et donc, la masse maxi au décollage est en fait de 472,5 kg. Au-delà, on passe dans la catégorie LSA ou un petit peu plus gros en avion. Extérieurement, c'est vrai que ça ressemble tout à fait à un avion. C'est un petit avion, c'est motorisé par des moteurs, en général, c'est des Rotax, des 100 chevaux.
Quelle vitesse à peu près ?
C'est variable.
C'est assez variable. On a une machine qui vole aux alentours de 190-200 km/h.
En croisière, on
a des machines qui peuvent voler, qui peuvent être beaucoup plus rapides que ça. Donc c'est vrai qu'on a, on a rien à envier à l'aviation.
Et par rapport justement à l'aviation, il y a aussi des hauteurs minimales et maximales, parce qu'après, très très haut, on a les avions, on va dire, commerciaux. Mais par contre, vous, est-ce que vous pouvez voler à la hauteur qui vous plaît ?
Non.
Alors, on est limité à 12 500 pieds. 12 500 pieds, c'est tous les avions légers sont limités à cette altitude-là. Ensuite, en fonction des espaces aériens, on va pouvoir pénétrer grosso modo tous les espaces aériens, sauf en région parisienne, où c'est des espaces aériens qui sont très particuliers, des espaces aériens contrôlés. Là, tout ce qui est vol à vue, alors ça représente les planeurs, les ULM et les petits avions, là, on n'y a pas accès. Mais ensuite, on a des contraintes qui sont complètement différentes, qui sont et donc la réglementation qui s'applique à tous les avions. Et ensuite, on a la particularité de l'ULM.
Oui, ça concerne le pilotage, en fait. Donc, disons que l'ULM, je ne vais pas dire que c'est plus difficile ou plus facile qu'un avion, mais c'est quand même différent. On a la possibilité de se poser beaucoup plus court, décoller beaucoup plus court hein, qu'un avion. L'inconvénient, c'est que l'ULM est très, très sensible à l'aérologie. Donc,
c'est-à-dire que dès qu'il y a beaucoup beaucoup de vent, vous pouvez
on reste à la maison. Ouais.
C'est plus compliqué, oui.
Ah ouais. Donc ce week-end, vous n'avez pas décollé.
Non. On est resté aller bichonner, quoi.
Aller bichonner.
Voilà, en gros, quoi.
Et l'autonomie de ces appareils ?
Alors c'est variable d'un appareil à un autre. Bon, vous avez des ULM qui volent à 40 km/h et d'autres qui volent à 300 et même plus. L'autonomie, ben ça va en fonction de la finesse de l'appareil, c'est-à-dire donc de la force, de la pénétration dans l'air. Donc vous avez des consommations qui vont allez, je vais dire de 5-6 litres à l'heure jusqu'à 18-20 litres. Donc, ceux qui vont donner une autonomie variable qui peuvent être de 300, 500, 1000 km.
Ah oui, donc on peut partir en
vacances
avec.
On peut traverser la France. On peut traverser la France, oui.
Et au niveau justement pour l'atterrissage, on est obligé d'atterrir sur des aérodromes ou non ? On peut atterrir
alors,
où on veut.
On atterrit sur des aérodromes. Oui, c'est mieux, c'est plus sécurisant.
On a aussi beaucoup, excuse-moi.
Non, vas-y.
On a pas mal de bases ULM qui ne sont pas vraiment des aérodromes. C'est une base ULM, ça va être une piste qui va être beaucoup plus courte, des terrains qui ne sont pas goudronnés, des terrains en herbe. Donc c'est un petit peu l'origine de l'ULM, ça. C'est vraiment, on se pose là où on peut. Donc il y a 900, en France, on a 900 bases ULM quand même. Donc ça permet de pouvoir.
Il y en a une du côté de Tarascon, c'est ça ?
Alors Tarascon, oui, en effet, je ne sais pas comment elle s'appelle précisément, mais en effet, on en a une à Tarascon, ouais, on en a une à Coustelet.
Ouais,
alors celle de Coustelet, elle est très très courte, on a une piste qui fait moins de 300 mètres, donc avec des obstacles en début de piste et en fin de piste. Donc,
c'est sympa.
Un pilotage qui est assez, qui ne pardonne pas trop, quoi. Donc il faut vraiment avoir été formé et pratiquer assez régulièrement. Alors ce qui fait aussi la différence de l'ULM par rapport à l'aviation générale, c'est que quand on est pilote avion sur un Cessna, sur un DR400, on a une pratique minimale à assurer par an. On a grosso modo 12 heures de vol à faire sur une période de 1 an. Là, en ULM, on n'a pas d'impératif. En fait, l'ULM, à la base, c'est un monde de liberté. Donc, petit à petit, la réglementation nous a un petit peu rattrapé parce qu'il faut un petit peu cadrer tout ça et à minima. Mais voilà, c'est le monde de liberté. On n'a pas besoin de visite médicale et périodique. On n'a pas besoin de pratique minimale. Et voilà quoi.
Il n'y a pas un minimum quand même à avoir pour l'initiation.
Après, dans notre club et dans tous les clubs et la fédération du ULM nous impose quand même certaines pratiques. C'est que à partir du moment où on n'a pas volé depuis plus de 2 mois, on pense que la limite, c'est vraiment 2-3 mois. Si on n'a pas pratiqué, il faut être repris par un instructeur qui vous fait faire quelques tours de piste, qui décèle s'il y a des choses à rattraper, des choses à améliorer.
Messieurs, cas d'école, moi je suis un petit génie de la débrouille là. Je sais souder des tubes, j'ai une vague idée de comment on peut faire voler un truc.
Ah bon?
Avec un moteur de Volkswagen.
Cas d'école, j'ai dit. Cas d'école. Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon appareil et de décoller d'où j'ai envie et atterrir d'où j'ai envie?
Alors,
est-ce que je suis obligé d'être adhérent dans un club?
Non, pas forcément. Mais à partir du moment où on veut créer une base ULM, pouvoir décoller et atterrir, il faut avoir au moins une autorisation de sa mairie.
Oui, mais il faut me breveter aussi.
Hein. Et voilà, il faut être breveté, il faut avoir acquis une formation qui va bien, une formation qui est standardisée au niveau national.
Parce que ma question, c'est on se rappelle tous, il y a 30 ans ou 40 ans, là, au début de l'ULM, où il y avait des accidents en série. Ça a d'ailleurs probablement
83.
Ça a d'ailleurs pas mal plombé les débuts de l'ULM. Hein. Il y a eu, on se rappelle, moi je me souviens très bien qu'il y avait des mecs qui se cassaient la gueule à intervalles très réguliers, encore un peu, mais beaucoup moins. Et l'ULM avait une mauvaise image. Est-ce que petit à petit, ça a été gommé justement par la réglementation, par le sérieux qu'on est obligé d'apporter?
Oui, je pense, je suis persuadé, ça a été, les débuts de l'ULM ont été compliqués, en 83, je pense que tu fais référence au Grand Prix de France, là où il y avait eu énormément d'accidents.
J'ai souvenir, moi, de cette époque-là, où n'importe quel charlatan pouvait tendre, comme il a dit, un bout de tissu entre deux tubes, là, foutre un moteur de tondeuse à gazon au cul du machin, et il y a des mecs qui se faisaient mal, quoi. Et il y avait, en tout cas pour moi, l'ULM a longtemps été assimilé à une image d'un truc super dangereux, pas sécure, avec un tas de mecs tous plus ou moins illuminés là, qui faisaient voler n'importe quoi, n'importe comment. Et j'imagine que ça, vous en avez beaucoup pâti.
Alors oui, en effet, ce qui a permis le développement de l'ULM, en fait, c'est un vide juridique au niveau de la réglementation. Et on a vécu ce qu'on a vécu donc dans les années 80 avec tous ces accidents. Ensuite, l'État a été obligé de légiférer. On a mis en place une réglementation un petit peu plus spécifique aux ULM. Il y a la Fédération française d'ULM qui s'est créée également, qui a essayé un petit peu de recadrer tout ça. Aujourd'hui, on peut dire que, même si on entend parler de temps en temps d'incidents liés aux ULM, la population s'est fortement assainie. On a des gens qui sont formés, qui sont correctement formés. On a des instructeurs qui sont validés au niveau DGAC, donc c'est quand même la référence, c'est l'État qui valide ces personnes-là. Je pense que le monde de ULM, c'est quand même pas mal assaini, alors même si ça reste un monde de liberté, c'est quand même un monde aussi où on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait plus n'importe quoi.
Et du coup, ça devient moins libre, forcément.
Ça devient de forcément moins libre. Si on veut avoir une sécurité minimale, il faut forcément avoir des contraintes.
Et sinon, à partir de quel âge, justement, on peut monter et piloter?
15 ans. De 15 ans, on peut se prétendre à passer un brevet et piloter un ULM.
Et le brevet, justement, par rapport au brevet de pilote d'avion, de tourisme,
ouais. Oui.
Est-ce que, alors, deux questions. La première, est-ce qu'il est aussi difficile? Et deuxièmement, est-ce que ça vous permet justement d'avoir, on va dire, des options complémentaires qui ne seront pas validées pour le... Est-ce qu'il y a des passerelles?
Alors, il n'y a plus de passerelles. À une époque, on avait une passerelle. Les gens qui étaient brevetés avion pouvaient venir et avoir une équivalence en ULM. Depuis quelques années, ce n'est plus le cas.
Et vice-versa, non?
Et vice-versa, non plus, non. Alors, ce qui est certain, c'est qu'avoir une expérience en ULM pour passer à l'avion, c'est quand même intéressant. Et dans l'autre sens, ça l'est un petit peu moins parce que l'avion est relativement stable. Donc, arrête-moi si je dis des bêtises, à un moment donné, Jean-Louis. L'avion est beaucoup plus stable, donc beaucoup plus lourd, beaucoup plus stable. On va aborder peut-être quelqu'un qui serait breveté avion, qui a une bonne expérience en avion, va avoir des facilités quand il va arriver en apprentissage ULM, mais pour autant, la difficulté, c'est qu'il va peut-être un petit peu, à mon sens, surestimer son pilotage, parce qu'on est beaucoup plus stable en avion, je l'ai dit, en ULM, on est beaucoup plus sensible au vent, et là, ça peut devenir rapidement compliqué.
D'où le poids.
Voilà, d'où le poids. Mais... comment dirais-je, la pratique de l'un va améliorer la pratique de l'autre.
C'est une bonne chose.
On peut être, on peut voler sur les deux types de machines, quoi.
Ouais. Oui. Mais c'est quand même, c'est beaucoup plus facile pour un pilote planeur d'accéder à l'ULM, donc pour pouvoir apprendre le pilotage de l'ULM, parce qu'ils ont juste, la maîtrise. Ou disons de gérer.
L'aérologie.
Ouais, tout
non,
à fait.
Non, ils ont déjà la maîtrise de l'aérologie, mais ils auront juste à apprendre la gestion moteur, quoi, c'est tout. Mm. Donc c'est relativement très rapide.
Alors... En général, les pilotes de. Excuse-moi, je te coupe, mais les pilotes de planeur, on en a un là, il y a une espèce de feeling qui se fait à la machine et qui permet de mieux sentir. Enfin, t'as déjà piloté une ULM ?
Non, je n'ai piloté que des planeurs, donc que des. Mm. Des avions non motorisés.
Et en les écoutant, ça ne donne pas justement l'envie d'essayer ?
Ah ouais, ça donne l'envie d'essayer, mais en fait, je suis dans une phase où je cherche plutôt à me perfectionner au niveau du planeur. Mm. Et puis après, on peut pas. Enfin, il faut un certain temps, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Ouais. Et donc, du coup, oui, plus tard. Mais j'espère que ma femme n'écoute pas la radio.
Mais sinon, justement, messieurs, donc Jean-Pierre et Jean-Louis, comme Vincent qui fait du planeur. On faisait le comparatif avec le pilote d'avion. Mmh. Est-ce que quelqu'un qui fait du planeur, justement, aura des facilités pour...
Je pense que le planeur, c'est une très bonne école pour arriver à l'ULM et à l'aviation en général. Mmh. Parce qu'on n'est pas autonome. Hein. Bon, on n'est pas autonome. On n'a pas de motorisation. Donc, il faut maîtriser l'aérologie. Il faut savoir vraiment maîtriser sa machine. Alors, même si ça plane très bien et ça vole très bien, c'est pas forcément évident de se dire, ben voilà, je suis à 20 km d'une piste ou d'une base où je peux me poser. Est-ce que je vais arriver est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que... Mmh. Donc moi, ça m'a toujours étonné et j'ai toujours été ébahi par leur capacité à gérer la distance et l'altitude et à se poser au bon endroit au bon moment. Quoi.
Mais t'as pas eu l'idée d'aller te mettre dans un avion sans moteur, toi ?
Non, en fait, j'ai essayé il y a quelques années. Il y avait un ami qui m'avait offert ça pour mes 40 ans. Et donc j'avais fait une initiation un vol découverte à Saint-Rémy et alors là pour moi déjà le décollage avait été très très violent, c'était un treuil donc ça remonte au plafond quoi, et ensuite on essayait de trouver des ascendants, donc on avait tourné pendant un quart d'heure donc faire des spirales là, et j'avais été malade, donc j'ai dit non, c'est terminé le planeur, c'est pas pour moi.
Allez, on fait une petite pause et on continuera à parler avion juste après.
You laugh at me, I won't bite. Pointing fingers won't make me cry. Try cut me, I won't bleed. Got the power right inside of me. But when you see me, you know I've arrived. Tell all your friends who are blind. Not that nerdy girl you knew. Once I'm off, there's no stopping me, no. Make sure you step when I blow. Baby, just wait and see.
Parlons Sport sur RTVFM.
Duo, et on a hâte parce que Jean-Yves, il est toute chose depuis qu'on parle désert.
Moi, non, mais dès qu'il faut s'envoyer en l'air, ouais,
c'est... Ah, mais
je... Non, mais je crois qu'il est,
Valérie,
il est curieux.
Elle est impressionnée.
Oui, je crois. Non, mais je pense qu'il est curieux, justement. Donc, comme c'est quelqu'un qui veut toujours apprendre sur toutes les disciplines,
et
parce que c'est vrai qu'il
plus,
est incollable sur certaines disciplines, veut apprendre et il...
Mais bien sûr que ça m'intéresse, c'est ça.
Voilà.
Mais vous devriez avoir la même démarche, monsieur Ferré. Ouais.
Mais ça vous dérange pas de continuer d'interroger nos invités, justement?
Mais j'attendais que... Non, mais moi, les compliments, je prends, ils sont tellement rares.
Ben, c'est vrai, en plus. Hein.
Moi, ouais. Je voulais demander, justement, à Jean-Pierre, le prix d'un avion.
Alors, ouais, justement, là, c'est d'actualité pour nous parce qu'on a vendu une machine école qui était un petit peu vieillissante, on va dire ça. Elle était tout à fait apte à continuer encore pendant quelques temps. On a préféré la vendre pour repartir sur quelque chose de plus récent et on a à peu près pris l'équivalent. C'est une machine d'entrée de gamme. On est quand même à 65 000 euros.
Et par contre, justement, si on veut adhérer au club, est-ce qu'on vous nous prêtez l'aéronef ou il faut qu'on...
Alors, à partir du moment où vous voulez adhérer au club, bon, c'est soumis à l'appréciation du conseil d'administration du club. Bon, en général, ça pose pas trop de problèmes. Ensuite, on est dans une phase d'apprentissage avec un instructeur.
Et au qui bout dure de... combien de temps?
C'est assez variable. C'est en fonction du temps qu'on a donné
et l'assiduité.
Voilà, l'assiduité des cours et puis à sa capacité aussi. Moi, ce que je remarque, moi, je suis dans le milieu depuis pas très très longtemps, mais ce que je remarque, parce que plus on est jeune, et bon, c'est vrai dans cette spécialité,
plus on
mais dans,
tout,
voilà, dans toutes les spécialités, plus on est jeune, plus on apprend vite. Quoi. On a eu un jeune élève, là, il avait 14 ans. Il volait avec son père en double à 14 ans.
Oui, Louis, mais... le petit Louis qui volait avec son père, bon, il a été breveté au bout
quelques heures
12 heures, quoi, à peu près. Quoi.
Ah oui, ah, oui donc,
ouais, mais bon, c'est des cas.
Mais la moyenne, c'est quoi? C'est une trentaine d'heures?
On va dire, entre, je serais plutôt un petit peu plus, on va dire une quarantaine d'heures. Quoi. Quarantaine...
C'est du variable. C'est variable.
Et donc à ce moment-là, vous nous prêtez l'aéronef.
Alors voilà, tout à fait.
On te loue l'aéronef.
Une fois que
on te loue.
Une fois que la DGAC a délivré le brevet de pilote ULM, une fois qu'on a sa licence, etc. Voilà, on a un système de réservation informatisé, donc on réserve sa machine et puis on part faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. On paye donc à l'arrivée, ou on a un compte d'avance sur vol et on met l'argent qu'on veut et puis voilà.
Et on paye quoi en fait?
Alors on va payer la location, enfin le prix de revient de la machine quoi, qui bon, c'est l'amortissement de la machine, c'est le prix des assurances, c'est le prix de l'essence et il reste une petite marge pour le club, enfin une petite marge. Oui, si on va dire ça, une petite marge pour le club qui nous permet de réinvestir. Voilà. Donc on est sous le coup d'une loi 1901, je pense, comme la radio, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et voilà, on ne fait pas de bénéfices, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. Quoi.
Et donc en moyenne, moi je veux par exemple, on va dire on loue à l'heure,
oui.
C'est ça?
Ben, c'est plutôt par unité, hein. C'est par groupe de 6 minutes. Toutes les 6 minutes, c'est comme dans un taxi, vous mettez le contact, il se met en marche, le compteur, et puis quand vous revenez, vous regardez votre cadran et il vous donnera le temps de vol.
Et en moyenne, pour une heure de vol, on est à peu près à un budget de combien?
Ben 78 euros.
78 euros pour une heure.
Après, pour les collages, c'est un petit peu moins cher parce que l'appareil donc, est un peu moins sophistiqué, a coûté un petit peu moins cher. Donc, c'est 72. Hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, on a deux machines. Une qui est plus spécialisée pour l'apprentissage, pour la formation, et une qui est plus pour aller faire des petits voyages, on va dire ça comme ça.
Voilà, ouais.
Et donc elles ont des tarifs un petit peu.
Donc si tu loues l'appareil pour faire un petit voyage entre guillemets d'un week-end, ça coûte cher quand même. Si tu la payes à l'heure, t'as un forfait ou parce
non,
que
non c'est uniquement l'heure de vol en fait.
C'est l'heure de vol, c'est pas le
c'est
fait
de vol.
D'accord.
Non.
Okay. C'est-à-dire je dis n'importe quoi, comme tu disais tout à l'heure, je vais à Gap.
Voilà, ben je vais reprendre cette explication. Par exemple, là, je décolle demain. Enfin, c'est pas le cas, mais si demain je décolle pour aller déjeuner à Gap, ça va me coûter le temps d'aller, le temps de retour.
D'accord.
C'est-à-dire demi-heure aller, demi-heure retour, sachant qu'en voiture il nous faut grossièrement 3 heures pour y aller, il faut demi-heure en avion, quoi. Enfin, en avion en ULM, quoi.
Non, mais finalement on dit, mais c'est pas si cher que ça parce que
le temps passé,
le temps passé en avion, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, quand tu vois l'essence qui a augmenté, si tu dois prendre l'autoroute, les péages.
Autre avantage, c'est que là-haut, t'as pas de gilet jaune qui t'emmerde aussi.
En plus.
Mais bon, ça c'était voilà. T'as pas de rond-point.
Disons qu'on n'a pas de rond-point, on n'a pas de feu rouge, on n'a pas de stop. Mais on a des bleus qui nous contrôlent quand même, hein, je vous le dis aussi en passant. Quoi.
Ouais. Ah, mais donc, mais on peut faire des excès de vitesse parce qu'il peut aller à 300.
Les excès de vitesse, il n'y a pas de souci pour ça. Quoi.
Ah, ouais. Et il y a combien d'adhérents au club ?
Alors, cette année, on a fini l'année, une année record, on a fini l'année, on a 72 adhérents. Enfin, au 31 décembre, on avait 72 adhérents. Sur 2019, on va repartir avec des gens qui ne renouvellent pas forcément. Donc, je pense qu'on va perdre une dizaine d'adhérents sur 2019. Mais voilà, on a c'est réparti, on a 38 pilotes brevetés, on a 3 instructeurs aujourd'hui et 26 élèves.
Mais donc, ça veut dire que les places pour... Parce que vous n'avez que deux aéronefs ?
Oui.
On n'a que deux aéronefs.
Donc, c'est vrai que ça doit se disputer pour avoir les petites places, non ?
Pas tant que ça. Malgré ça, on a pas mal de disponibilité. Les avions sont, on va dire, sous-exploités. C'est pour ça que notre difficulté, en fait, c'est de recruter des instructeurs qui soient, qui soient présents et qui puissent former du monde. On a énormément de gens, d'élèves qui souhaiteraient passer leur brevet. La problématique, ça va pas être tellement en disponibilité machine, ça va être plutôt en disponibilité instructeur. Parce que nos instructeurs, là aussi, ce sont des gens qui sont bénévoles. Mmh. Donc, ils sont déjà beaucoup investis. C'est compliqué de leur demander plus. Quoi. Mmh.
On imagine. Ouais. Et par contre, si on veut découvrir la discipline avant d'adhérer au club, de passer le brevet, vous proposez des vols découverts.
Tout à fait. Vous pouvez passer nous voir.
Donc, comment ça se passe ?
Eh bien voilà, c'est encore moins. Eh bien, c'est pas compliqué, vous me téléphonez.
Ça délègue beaucoup, monsieur le président.
Ou tu vas le samedi matin à l'aérodrome.
Vous téléphonez, on prend un rendez-vous, et en fonction de la météo et de la disponibilité d'un pilote ou d'un instructeur plutôt, eh bien, vous irez faire un petit tour. Hein, dans le jardin, comme on dit. Alors le jardin, c'est le sud Ventoux, quoi, hein, c'est-à-dire en gros jusque Bedouin ou un truc comme ça, quoi, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça. Après, vous avez aussi le vol initiation. La petite différence, c'est que vous faites à peu près le même trajet, mais surtout, c'est que vous commencez à toucher un peu les commandes. Parce que l'instructeur est à bord, bien entendu.
Ah oui, oui.
Ça, c'est
oui.
Une petite différence. Oui, quoi. Oui.
Non, c'est vrai que c'est sympa. Donc,
le vol découverte, on peut, généralement, je me dis bien, c'est le tour du Ventoux. On part de Carpentras, on fait le tour du Ventoux, on revient. Ou alors, de l'autre côté, à l'opposé, on va du côté sud, on fait Apt, Gorde, tout ce secteur-là. Quoi. C'est variable, c'est un peu à la demande. Quoi. Mais on tient compte toujours de la météo, très important.
Bien Donc sûr. Ça, c'est le vol d'initiation.
Le vol découverte.
Découverte. Et le vol d'initiation,
c'est... Vol d'initiation, c'est l'instructeur qui prend son élève, il le met à... enfin, son élève, son futur élève, le met à côté de lui, puis il décolle et il fait un petit tour dans les environs, là, pas forcément très loin, mais pour le maniement de l'appareil, pour apprendre un peu les balbutiements de l'appareil.
Et j'ai vu que l'an dernier, il y avait eu le rassemblement du LM à Carpentras.
Ah, oui.
C'était en mai. Est-ce que... Donc c'était la deuxième édition l'an dernier. Est-ce que Tout cette année, il y a une nouvelle édition
Oui, normalement, on a prévu. Ça va être le week-end, c'est un week-end du mois de juin. Je crois que c'est aux alentours du 19 juin, normalement, 19 juin. On va organiser...
Ne serait-ce point le week-end de la fête des pères. Donc, mesdames, si vous avez un cadeau à faire à vos époux, n'hésitez pas.
Non, Valérie.
Moi, non, j'ai essayé, il ne veut pas.
Ah, il ne veut pas.
Non.
Bon. Il ne veut pas s'envoyer en l'air.
Je lui redemanderai, Romain.
Le boss ne veut pas s'envoyer en l'air, n'hésite
c'est
pas.
C'est incroyable, non, mais c'est...
Si, peut-être l'ULM. Si, peut-être. Le bon. Planeur, non, ça l'intéresse pas.
À ce moment-là,
pas,
on vous réinvitera pour parler de cet événement.
Ah, ben volontiers,
bon,
oui.
Ça vaut la peine de... Et sinon, au niveau des vols, c'est tous les jours possible ?
Oui, tous les jours de la semaine, 365 jours par an. Bon, il n'y a que la météo qui va nous bloquer certains jours.
Tant qu'il y a du Mistral, comme on a eu ces derniers temps.
Carpentras, donc c'est l'aérodrome de Carpentras, mais il est à cheval sur la commune de Carpentras et de Pernes. Mmh. Donc on est situé exactement au 232 chemin de Saint-Jean à Pernes-les-Fontaines.
Là où il y a le Vélivol.
Voilà, c'est tout à fait.
Même comme ça, ça fait une belle transition.
On est voisins. Non, allez, il est trop fort.
C'est une bonne transition.
Ce garçon est trop fort, voilà. La transition.
Donc, une petite transition.
Messieurs, on a terminé où? Ça voulait dire ça, en fait. Hein.
Bon,
et on passe au sujet suivant.
Ouais. On fait une petite pause musicale et puis on va parler avec Vincent, justement, le secrétaire du Vélivol qu'on avait reçu il y a quelques temps et qu'on est ravis de retrouver, justement, pour parler du planeur. Alors, c'est la même chose. Ça vole, mais il n'y a pas de bruit. À tout de suite.
Ça fait...
Color red, the blues. Woo, shit. Woo. I'm a Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky raise up to the moon. Girls, what y'all trying to do?
Parlons sport sur RTVFM.
Voilà, donc après cette magnifique transition qui était juste avant la pause musicale.
Tu es mon maître, tu es mon idole.
T'as vu un peu ?
Ah ouais.
C'est pour ça que t'es venu chez nous ?
Ben, bon, parce que je suis plus payé ici surtout.
Tu veux un autographe ?
Non.
Non ? Bon. Donc, avec Vincent Fab, donc, l'association Vélivol, c'est du planeur. On peut appeler ça aussi du vol à vol.
Oui, alors à la base, on parlait de vol à voile et on est lié à la Fédération française qu'il s'appelait vol à voile. Depuis le 1er octobre dernier, nous sommes passés Fédération française de vol en planeur.
Alors, oui, pourquoi, la voile, pourquoi ça ce changement peu... justement
Alors vol à voile, en fait, il y avait beaucoup de confusion. En fait, c'est la représentation qu'on en avait, notamment avec les sports comme le parapente ou les sports avec de la voile.
Mmh. C'est vrai que vous, c'est du dur.
Voilà, maintenant c'est du dur, oui, effectivement.
Avant ça n'était pas.
Il y a plus d'une centaine d'années, les débuts étaient avec des toiles tendues.
Jean-Yves, Jean-Yves a connu.
À l'époque, ma barbe n'était pas blanche.
C'est ça. Ah, avant c'était des toiles en fait.
Oui, au début, en fait c'était de la toile tendue sur.
Donc ça s'explique mieux voile à voile et que maintenant on est changé.
Oui, alors après, les puristes aujourd'hui disent qu'ils perdent leur âme en s'appelant vol en planeur, parce qu'en fait, planeur, c'est la notion de planer. Mmh. Et en fait, on fait bien plus que planer, puisque le planeur a capacité à planer longtemps, mais à un moment donné, il faut pouvoir remonter pour pouvoir faire continuer le vol. Et donc, du coup, on va se servir d'ascendances qui sont liées... d'origine solaire ou d'origine le vent, et qui vont nous permettre de reprendre de l'altitude et de poursuivre le vol. C'est ce qui fait qu'avant, on était très attaché au terme vol à voile, vélivol, qui en fait était lié à ce qu'on appelle le vol en campagne, à pouvoir partir et circuiter.
Donc tout ce qui est aérologie, tout ça, c'est vraiment important chez vous ?
Très important, en fait.
C'est la base,
même. On dépend énormément de la météo. Après, on a des capacités de vol qui sont différentes de l'ULM, parce que par exemple, on évoquait tout à l'heure l'ULM avec par fort vent qui va éviter de voler. Nous, il y a des conditions de fort vent où au contraire, on va chercher à voler après jusqu'à une certaine limite, puisqu'en fait, on est lié au décollage à un avion, notamment à Carpentras. Hein, c'est un avion qui nous aide à nous envoler, à prendre l'envol.
Mais pourquoi ailleurs, on peut se lancer autrement ?
Le treuil. Oui.
Voilà. Très bien renseigné. On a deux types de mise en vol principales, c'est-à-dire qu'on a le remorqué, donc c'est un avion qui va nous remorquer, nous faire prendre de l'altitude, et après on va s'en séparer et poursuivre le vol.
Merci pour les flyers que tu leur as amenés, comme ça leur permet de développer leur culture générale.
La culture, il faut savoir la sortir juste au moment, tu vois.
Mais parfait.
Nickel.
On a un deuxième mode de lancement qui est le treuil, que l'on n'a pas à Carpentras, mais qui est existant effectivement au club de Saint-Rémy, qui est un club voisin, ou club de Peugeot. Donc en fait, c'est un long câble qui s'enroule autour d'une bobine. Le câble fait environ 1 km, 1,2 km. Et en fait, on va décoller comme un cerf-volant. Et ça va nous mener à peu près à 400-450 mètres du sol. Et à ce moment-là, on s'en sépare et on essaie de prendre de l'altitude, ou alors on se repose.
Et le treuil, c'est un moteur qui l'enroule ?
Oui, moteur thermique à gaz ou électrique. Aujourd'hui, qui se font beaucoup des moteurs électriques.
Et ça vous lance à quelle vitesse ?
Alors justement, le démarrage est assez sympathique. Enfin, quand on ne connaît pas, on est souvent surpris. Mais on prend très, très vite de la vitesse. C'est-à-dire qu'en 60 mètres, on va être à autour des 110 km/h.
Ah oui,
du coup, il y a une forte accélération. Et pour avoir, en fait, c'est pour optimiser, parce qu'on a un câble qui fait 1 km, 1 km 200. Et si on veut optimiser la longueur de câble pour prendre de l'altitude, il faut qu'on décolle le plus rapidement possible.
Et t'as intérêt de ne pas oublier de lâcher le câble.
Ça monte de 20 mètres par seconde. Tu imagines la boîte que tu prends.
Ah ouais, non, mais
tu prends une
très belle accélération.
Moi, je dis. Là, t'as comme une G à peu près.
Donc, en fait, alors, en G, on n'est pas énorme. Il y a une accélération de départ qui est horizontale, la prise de vitesse. Et après, on fait un arrondi, une prise d'altitude. Donc, en fait, l'accélération. Avant d'atteindre les 20 mètres seconde verticale, c'est assez progressif la partie verticale. Donc,
oui, tu n'es pas une fusée. Quoi.
Après, il faut être bien calé dans son siège, avoir aussi la tête calée sur l'appui-tête. Parce qu'au début, quand on ne connaît pas, on peut être très, très surpris. Mais c'est très, très sympathique parce qu'il y a vraiment une sensation assez... assez exceptionnel et qui n'existe que là.
Non, mais je suis en train de rigoler parce que je suis en train de penser à ce que disait Valérie en me disant si le câble ne se décroche pas, ça fait le mal. Planeur qui tourne ce câble.
Alors, il y a des systèmes. En fait, le câble va se décrocher d'une part théoriquement tout seul du moment qu'il passe la verticale de la machine du treuil. Ouais.
À la verticale.
À la verticale. En fait, dès qu'on passe la verticale, le crochet est fait exprès pour se libérer. Et ensuite, on a des manœuvres faites exprès aussi dans le cas où le câble se décroche pas.
Sinon, tu tournes pendant une heure et quart au-dessus de Peugeot, tu sais.
Voilà, c'est ça. Et... fais le cerf-volant.
tu fais le cerf-volant, en fait. Ça va être sympa aussi.
C'est vrai. Voilà. Et ça coûte cher, un treuil? Parce que s'il n'y en a pas à Carpentras, c'est parce que c'est le coût ou c'est...
Non, c'est l'aérologie. En fait, il faut avoir une aérologie très locale au terrain qui permette de reprendre facilement de l'altitude. Sur Carpentras, en fait, à proximité immédiate du terrain, on a une aérologie qui est extrêmement favorable, très peu de temps dans l'année, en fait, que certains jours. Et comme pour optimiser le nombre de jours où on peut voler, en fait, il faut s'écarter du terrain. Alors que je prends l'exemple de Saint-Rémy ou de Peugeot qui sont très caractéristiques. Saint-Rémy et Peugeot sont des clubs historiques, notamment Saint-Rémy est un des clubs d'origine du vol à voile. Et en fait, ils ont une aérologie qui leur est propre. La piste est contre un relief qui est alimenté par le vent. Et comme le Mistral est très très présent, et la pente est côté opposé, est exposée en permanence au soleil aussi. Donc ça crée des conditions de vol d'environ une trentaine de jours par an qui permettent de se maintenir en l'air. À Carpentras, ça serait plus difficile. Et puis ensuite, Carpentras, il y a une particularité par rapport à Saint-Rémy et Peugeot. Saint-Rémy et Peugeot sont des plateformes qui sont quasi exclusives au vol à voile. Notamment, Saint-Rémy est exclusive au vol à voile.
Ouais, Peugeot et du parachutisme.
Avec le parachutisme. Et du coup, le câble qui se balade, mais en fait, ça gêne aussi les autres pratiquants de la plateforme. Et franchement, quand on se remettrait à décoller, si on se mettait à décoller au treuil, pendant un certain temps, on a nos collègues qui patienteraient ou au sol ou en l'air. Et du coup,
si vous voulez décoller, il se prend un bon coup de.
Voilà, c'est pas très sympathique.
Non, là, c'est vrai que c'est.
Et du coup, nous, on fait exclusivement du vol remorqué. Après, il existe encore deux autres types de mise en l'air qui existent toujours.
Tu jettes d'une falaise.
Avec la voiture. Donc du coup, on a des clubs encore qui l'utilisent, qui ont l'agrément pour l'utiliser, la Montagne Noire près de Montpellier. Donc en fait, c'est la grande vadrouille. Grande vadrouille, si vous vous rappelez, c'est à la Montagne Noire.
Et après... Bien sûr qu'on sera pas à la Bourville. Mais...
Et ensuite, il y a l'élastique. L'élastique qui était pratiqué à Saint-Rémy. Donc en fait, il y a des personnes qui tendent de chaque côté un élastique comme on fait du...
Le problème, c'est qu'il tire la corde. C'est Jean-Yves qui a tenté l'élastique, mais je crois qu'il a pris la figure. Donc c'est pour ça que...
Et après, on lâche le frein et le planeur s'élance. Il faut qu'on ait une pente face
donc
à nous.
Donc il y a une propulsion de la part de l'élastique.
Voilà, il y a une aide au départ de la part de l'élastique.
Je te demande, on a quelques élastiques, on pourrait peut-être essayer. Ça peut être sympa, non? Et sinon, au niveau du... Parce qu'on parlait tout à l'heure tarifs sur l'ULM, est-ce qu'on est dans les mêmes ordres de tarifs dans le planeur?
Non, parce qu'en fait, nous déjà, le planeur en lui-même n'a pas de moteur. Donc, on n'a pas ni le moteur dans la machine. Donc déjà, en termes de coût, c'est un avantage. Et on ne consomme pas de carburant du moment qu'on est en l'air. Par contre, on a un avion qui va nous mettre en l'air. Donc en fait, le tarif, il est composé en deux parties. Le planeur, globalement, c'est 21 euros, l'heure de vol. Et ensuite, il faut la mise en l'air. Et la mise en l'air, c'est 4 euros la minute en remorqué. On peut arrondir en disant que globalement, on fait entre 8 minutes et 10 minutes de moyenne de remorqué. Et je suis très large parce qu'en fait, après, une fois qu'on est breveté, qu'on a de la pratique, on va optimiser son temps de remorqué. Donc en fait, on va optimiser son tarif. Et ensuite, une fois qu'on est en l'air, Le tarif est limité à 3 heures, c'est-à-dire que si on vole plus de 3 heures, au-delà de 3 heures, on ne paye pas l'heure de vol.
Et donc, le prix d'un planeur, c'est justement, c'est ce qu'il voulait demander, je pense aussi, le prix d'un planeur.
Le prix d'un planeur neuf et en entrée, c'est la même grandeur de prix, ouais. C'est 65-70 000 euros neuf. Nous, on est plutôt un club à faire des achats plutôt d'occasion, voilà. Parce que après, alors on est un club complètement bénévole. C'est le même état d'esprit que nos voisins. Soit de l'ULM, soit de l'aéroclub, des avions moteurs. On est entièrement bénévole et le but, c'est de faciliter l'accès à la pratique au plus grand nombre, en fait.
Et justement, on parlait tout à l'heure de brevet à l'ULM. Là, je suppose qu'il faut également un brevet. Comment ça se passe? C'est le même principe? Il faut un nombre d'heures de vol? Est-ce que c'est reconnu par l'État? Est-ce que c'est interne au club?
Oui, c'est un brevet qui est délivré sous l'égide de la DGAC.
La même chose.
Et ensuite, par contre, il n'y a pas de minimum d'âge réglementaire pour commencer la pratique.
Alors qu'à l'ULM, c'est 15 ans. Chez vous, non?
Non, il n'y a pas de minimum. Par contre, ce qui est indiqué... En fait, les éléments de base, c'est un poids et une taille qui permettent d'équilibrer le planeur. Tout à fait.
Après, il est petit et large.
Je suis invité, j'ose pas, mais... En fait, on a une limite haute de poids pour l'équilibre quand même.
Et oui, mais c'est la dernière fois que tu viens à la radio, tu le sais. C'est la dernière fois que tu fais de la radio, alors vends ton truc comme il faut parce que c'est mort.
Normalement, tu passes, il a dit, tu passes.
Ah, tu passes, t'as vu,
Il a dit, tu passes.
Ouais, il n'a pas le choix, hauteur, surtout.
En hauteur, mais pas en largeur. Bon, allez.
Chez nous aussi, on est limité par le poids. Hein.
Ah, mais Jean-Yves...
Chers auditeurs, si vous écoutez, ce soir, c'est du n'importe quoi et on est désolé pour vous.
Est-ce qu'on a possibilité, justement, d'avoir des vols découvertes comme...
Oui.
Et comment ça se passe?
Donc c'est un peu le même principe. Hein. C'est un vol... on appelle ça des vols d'initiation au sein du planeur. En fait, il y a soit un vol sec, entre guillemets, c'est comme un baptême de l'air, en fait, hein, où on va emmener une personne et lui faire découvrir la pratique du vol en planeur. Après, on a d'autres dispositifs avec la fédération a créé des licences 3 et 6 jours, qui sont 3 et 6 jours non consécutifs. Du coup, on adosse un forfait et on propose 3 jours ou 6 jours avec chaque jour un vol. Donc 3 jours, 3 vols, 6 jours, 6 vols. L'idée, c'est le premier vol, c'est avec un pilote qui a l'autorisation d'emmener des personnes pour faire découvrir. Et puis les vols suivants sont plutôt à connotation de début d'instruction. Voilà. Ah, donc ça permet, ça. Voilà, ça permet de découvrir, c'est accessible et ça permet de voir si c'est vraiment ce qui nous intéresse. Parce que c'est vrai que prendre une licence fédérale, s'engager pour une année avec un club, des fois en investissement de base, ça peut faire beaucoup. Et du coup, une licence. Le forfait nous découverte 3 jours, c'est 200 euros, qui comprend les 3 vols sur 3 jours.
C'est pas excessivement cher, hein, c'est correct.
Avec
hein.
licence, assurance, etc. Voilà.
Non, mais c'est vrai que ça permet vraiment de découvrir l'activité, parce que ce sont quand même des activités, les deux, relativement atypiques. Donc l'occasion justement d'essayer.
La différence, c'est qu'aussi, dans le planeur, il y a... une notion de compétition aussi, parce qu'il y a des compétitions, c'est ça?
Alors, on est adossé à une fédération sportive. Donc, en fait, le lien avec une fédération sportive, on a des championnats du monde, des championnats de France, des championnats régionaux, et on organise, donc, c'est fin mai, du 27 mai au 1er juin, une compétition qui est sélective pour le championnat de France, voire les championnats internationaux, puisqu'on est en fait, pour faire très simple, on est adossé au calendrier international, ce qui fait que les pilotes qui viennent pratiquer lors de notre compétition créditent des points au classement international, ce qui leur donne la possibilité de s'inscrire à des compétitions de niveau national.
Et je sais qu'à un moment, vous organisez la Coupe du Ventoux, ça existe toujours?
Oui, c'est cette compétition-là, voilà, la Coupe du Ventoux. Voilà.
Qui a lieu habituellement au mois de mai, c'est ça?
Oui, donc elle a glissé fin mai, début juin, parce qu'à chaque fois, on essaie de voir Madame Irma et de savoir quelle météo on va avoir à ce moment-là.
Et nous aussi.
Donc, cette année, les dates, elles sont arrêtées?
27 mai, 1er juin.
Alors, on pourra aussi vous êtes bienvenus, t'es bienvenu pour présenter cette manifestation. On reparlera bien sûr du planeur.
Non, il est vraiment. S'il ne fait pas monter dans son machine, tu vas voir s'il va être le bienvenu.
Attention, il ne faut pas que tu grossisses plus.
Non, mais pas de souci. Jean-Yves ne peut pas. Mais nous, avec Valérie, bien sûr, on.
Bah non, mais je préfère l'ULM, moi.
Ah, bah écoute.
Et toi, tu vas voir les planeurs.
Et pour voler, il y a des jours précis ou pas?
On est ouvrable du lundi au dimanche, donc on peut voler n'importe quel jour. Le critère principal, en fait, c'est la météo. Parce qu'on va cibler, surtout quand on fait faire un premier vol, en fait, on va cibler une météo qui est sympathique pour faire découvrir, pour pouvoir tenir en l'air un certain temps et pour montrer.
Est-ce que le vol dure combien de temps à peu près?
Ça dépend.
Quand on est bon.
Alors. Non, quand on est. Alors, ça dépend de la météo, parce que non, mais si on est bon, ouais. Eh bien, en fait, il y a un record de France qui est un record du monde, je crois, qui est de l'ordre de plus de 40 heures de vol, sachant que c'était à une certaine époque et que, comme il a été évoqué juste avant, l'ULM comme le planeur en France, on est en vol à vue, donc on doit respecter l'amplitude de la journée aéronautique, donc une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le lever du soleil.
Sauf si tu as débrouillé, tu changes au niveau des fuseaux horaires et comme ça tu vas dans différents pays, comme ça au moins tu voles de jour tout le temps.
Voilà, donc on peut, enfin personnellement par exemple, mais c'était avec un instructeur, c'est pas du tout de mon fait, j'ai volé 7h45. Après tout va dépendre de l'aérologie.
Et pas du poids du pilote. Du pilote.
Non, alors le poids du pilote.
C'est pour le démarrage, pour le décollage.
Peut-être un avantage.
Ne regarde pas.
Peut-être une. En fait,
il te perturbe.
On peut ballaster en fait les planeurs. On va mettre de l'eau dans les ailes pour augmenter le poids de la machine.
Ah, il faut. Plus il est lourd et plus il vole.
Plus il est lourd. Alors après, c'est un peu technique. Hein. Je vais être.
C'est bon alors.
C'est en fait tout va. Alors, on appelle ça la polaire.
On va faire des économies de flotte. Quoi.
Exactement. Alors après, on est limite. Enfin, il y a des gammes de mesures sur le poids
c'est compliqué quand même.
Total du fuselage par rapport au poids
c'est
des ailes.
Et
en tout cas,
jamais faire de vol à voile.
Mais non, en fait, compte, avant chaque vol, tu es obligé de regarder par rapport au gabarit des personnes et de faire des calculs. Quoi.
Mais c'est valable pour tous les avions. Hein. Le centrage est une obligation.
C'est pareil
en fait,
pour l'ULM, c'est pareil.
Et sinon, parce que bon là, ça va se terminer pour tous les deux, et on est vraiment désolé parce qu'on aurait bien aimé continuer à parler avec vous de tout ça. Vous avez tous les deux des sites internet pour l'ULM ?
Oui, tout à fait. C'est ulmcarpentras.com, il me semble.
Voilà, on mettra sur la page Facebook.
C'est ça.
Et pour le Vélivol ?
Alors, le nom du site internet est moins simple, mais sur tous les moteurs de recherche, en tapant Planeur Carpentras, on le trouve.
Ouais.
C'est vrai. Et on a une page Facebook aussi.
Mais, mettra justement tous ces renseignements-là. Comme ça permettra justement de pouvoir représenter cette discipline. En tout cas, y a deux événements qui vont avoir lieu, hein, un au mois de juin et l'autre au mois de fin mai. Hein. Donc on serait ravis de vous accueillir, bien sûr, pour en parler, reparler de cette discipline. Et puis, nous, je ne pense pas qu'on fasse de pause de pub. De
pause musicale, non,
on attend Laurent.
Laurent qui rappelle.
Il est appelé ou pas, là?
Non, il va rappeler, là.
Bon, alors,
donc, on va continuer.
Ce que je vous propose, de continuer, on ne fait pas de pause. On continue à parler un petit peu du Vélivol. Jean-Yves, je crois que tu étais curieux et tu voulais poser une question.
Moi ?
Ouais.
J'ai fait ça, moi ?
Ouais.
Non.
Non ? Bon, mais c'est pas grave. Donc, justement, moi, je reviens. Au niveau du nombre d'adhérents au club, vous en êtes à combien, à peu près ?
Alors, en fait, on est au même nombre de licenciés, quasiment, à un près pour 2018, puisqu'en termes de licenciés, on est à 73 licenciés sur 2018.
Et tous pilotes ?
Il y a beaucoup d'écoles. On a une très, très grande partie d'écoles au sein du club. Et alors, juste des petits rapports, c'est on est la compagnie aérienne principale française, je pense que je peux la citer, c'est Air France, qui, du coup, dans la formation de ses pilotes, impose une formation, l'obtention du brevet de pilote planeur. Et l'armée de l'air aussi, dans son cursus de formation de ses pilotes, impose l'obtention du brevet de pilote. Donc en fait, c'est vrai qu'on a une grosse partie d'école, parce qu'après, on a pour certains profils des personnes qui quittent, qui partent sous d'autres horizons. Et ensuite, on avait évoqué tout à l'heure le début de formation. En fait, on n'a pas d'âge minimum. Par contre, ce qui est indiqué, c'est d'avoir un poids et une taille suffisante pour accéder aux commandes, en fait. Et l'âge minimum pour voler seul, c'est 14 ans. Il y a 2 ans, on a un pilote qui a eu l'autorisation de voler tout seul à l'âge de 14 ans, quasiment à son jour anniversaire.
Faut pas être court sur pattes, alors.
Bah ouais.
Ouais, enfin, faut pas être grand non plus. Hein, c'est une taille minimum.
C'est quelle taille ? minimum
ouais, autour d'un 55, un 50.
C'est mort pour toi, Lionel.
Bah non, j'en fais 50. Ouais, un centimètre près, ça peut le faire. Et non, au niveau du club, dernière question, quel est le pilote le plus jeune que vous ayez
aujourd'hui, on en a deux de 15 ans.
Ah oui, donc... Et ils pilotent vraiment ?
Alors, ils pilotent, eux, ils sont en formation, ils ne sont pas autonomes. Par contre, après, on a deux autres pilotes de 17 ans qui sont autonomes, qui volent seuls, un de 18 également.
Parfait. Mais merci beaucoup, Vincent Fabre, d'avoir présenté cette association, Vélivol. Et puis maintenant, on va faire en revenir justement sur du BMX, parce qu'au téléphone, on a Laurent Venditelli. Bonsoir, Laurent.
Oui, bonsoir.
Salut,
bonsoir.
Laurent.
Ça va, Laurent ? Pas trop fatigué ?
Oui, ça va, ça va.
Pas trop fatigué ?
Ici, sur les rotules.
sur les rotules. Bon, on va faire un petit débrief à chaud de cette deuxième édition de l'Avignon Vélo Passion. Alors, comment tu l'as trouvé cette année ?
Bah, écoutez, c'est surtout les avis extérieurs qui comptent. Hein. Mais de notre côté, on est quand même relativement satisfait parce qu'au vu des conditions météo qui ont été exécrables, il n'y a vraiment pas eu les choses avec nous, hein. C'est très désagréable. Mmh. Un moral un petit peu atteint, un peu de frustration. En dehors de ça, il y a tellement de symbolique dans le week-end autour de l'événement, autour des courses, des bénévoles, que le moral revient à 100%, quoi. Donc, encore une belle édition, une bonne édition. Bon, bah, comme dans tout événement, des petites choses qui vont bien et des petites choses qui ne vont pas, mais...
Faut que tu te déplaces un petit peu, Laurent.
On t'entend plus, Laurent. Faut que tu montes sur la table de la cuisine.
Laurent. Ouais, non, je suis en fait dans mon véhicule.
Ah. Arrête-toi,
voilà, là où on t'entend bien. Oui.
Et sinon,
je suis sur la voie rapide. Ah.
Et lorsqu'on s'était vu, tu nous avais parlé justement d'une surprise par rapport à cet événement.
Ah, j'y étais, moi, la surprise.
Elle a eu lieu, la surprise ?
Ah, ben bah, la surprise, elle a eu lieu parce qu'on a eu la présence de Matt Hoffman. Le plus grand freestyler au monde, qui a presque 50 ans, est encore en train de défier les lois de la gravité, parce que je vous rappelle que Matt Hoffman, c'est quand même un gars qui a des jeux vidéo à son nom, c'est un gars qui a créé les East Games aux États-Unis, la plus grosse compétition freestyle de différentes disciplines au monde, il détient des records par dizaines. Et dans le monde du BMX freestyle et du BMX en règle générale, il est adulé, quoi. C'est une idole, vraiment. Et il nous a fait part de sa présence.
En plus, pas pourri, le Matt Hoffman, parce qu'il a, malgré une blessure à la cheville, je crois, il a enfourché le vélo, il a encore montré ce qu'il était capable de faire à 50 ans. C'est plutôt sympa ce qu'il est capable de faire.
Alors, je vais même aller encore beaucoup plus loin que ça. Ça dépasse tout. C'est-à-dire que Matt Hoffman est venu pour fêter l'anniversaire de son copain Brian, qui lui avait été invité à Vélo Passion. Seulement il est blessé, il roule, il vient à la séance de dédicace, il vient à la cérémonie d'ouverture, et il nous a rien demandé au niveau financier. Vous voyez, il y en a, ils sont connus dans leur maison et leur cuisine, et ils demandent que l'on héberge leur famille, que l'on offre 10 places et qu'on leur paye les frais de déplacement et presque qu'on leur serre les pompes.
En plus,
lui, Matt Hoffman, c'est un dieu vivant et il a rien à dire. Tenez compte de ce genre de comportement.
Voilà. En plus, on l'a vu prendre énormément de plaisir lors de la présentation et ça me permet d'enchaîner sur le l'indoor de samedi soir. Mais quand il a été présenté au public, on voyait qu'il était là juste pour prendre du plaisir, quoi. Il n'était pas là simplement en représentation pour faire le malin. Il était on voyait qu'il était heureux, quoi. Il avait la banane d'être là et ça fait du bien de voir des mecs comme ça. Et de manière générale, on a vu samedi soir des mecs qui étaient juste contents d'être là, qui venaient pas juste pour faire le job.
Ah, vous savez, dans le monde du freestyle, comme dans beaucoup de sports, il n'y a pas trop d'argent qui traîne. Alors du coup, les gens, ils savent pourquoi ils sont là, quoi. C'est pour rider, s'amuser. Il y a un show, comme on dit, un petit peu à l'américaine, justement, au moment de le faire. Ils ont la banane, parce que Sylvain André a été acclamé par le public.
Complètement.
Il est à domicile, il est chez lui. Et puis les autres n'ont pas été en règle, bien qu'ils ne soient pas conclusions. Mathilde Bernard a été très applaudie aussi, mais Camille Maire également, et etc., etc. Donc, pourquoi ne pas se faire plaisir quand on en est là, quoi. Voilà, c'est exactement ça.
On en a parlé tous les deux, Laurent, mais déjà, je voulais te féliciter, et toi et l'équipe, pour la qualité d'organisation de l'Indoor de samedi soir. Le public a pris un énorme pied pendant toute la soirée. Et au-delà de ça, on a pu découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, un vrai sport, un sport qui mérite d'être connu.
Écoute, pour moi, il n'y a pas de faux sport. Pour moi, il y a des gens qui se lèvent le matin avec des convictions, des passions, quelles qu'elles soient. Que ce soit le BMX, la route, le VTT, le baseball, le tir à l'arc, j'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est que les gens, ils vivent, qu'on avance dans la vie, qu'on se construise à travers des passions et des activités.
Quand je te parle de...
Le BMX, c'est un sport à part, parce qu'il a beaucoup de facultés, il apporte énormément. Et
quand je te parle de vrai sport, Laurent, c'est que le BMX, c'est un peu l'image de ce sport... qui est réservé plutôt aux gamins, et en fait, moi j'ai découvert samedi des vrais champions, des mecs super affûtés, avec des qualités de pilotage juste impressionnantes, et des mecs qui sont capables de s'y filer, et voilà, c'est des mecs qui en plus prennent d'énormes risques, quoi.
Ouais, Sylvain André... Et Jérémy Rancurel, par exemple, qui a gagné les deux jours, sont au bataillon de Joinville. Ils sont professionnels. Ils sont également au pôle olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et comme tant d'autres, ce sont des athlètes accomplis. Hein. Musculation, sprint, préparation mentale, ambition, motivation. Mmh. Ce sont de vrais athlètes. Hein, des vrais athlètes. Hein.
Écoute, on voulait juste te mettre un petit peu à l'honneur et mettre à travers toi le Avignon Vélo Passion de ce week-end, parce que voilà, c'était une vraie réussite, c'était un vrai bon moment, et j'imagine que les gens qui ont eu la chance de venir assister à l'Open de samedi soir et à la compétition de hier ont dû te dire à peu près la même chose.
Ouais, alors il y a l'Open, c'est vrai que l'Open c'est un peu le point d'orgue de Vélo Passion, mais... On a eu un petit peu plus de 10 000 personnes sur l'ensemble des trois jours, malgré la météo. C'est quasiment autant que l'année dernière. Mmh. Et je n'oublie pas, et il faut faire attention, le BMX, c'est très gentil d'en parler, mais n'oublions pas le VTT Romain Gras, qui a malheureusement eu peu de monde sur sa rando parce que le temps était exécrable. Mmh. Le VC Le Tourgadagne avec Fred Cloche pour le cyclocross indoor, qui a eu un vrai succès aussi. La course sur route qui malheureusement a été interrompue à cause du vent dangereux, la drésienne, le trial, le monocycle. Voilà, attention, Vélo Passion, c'est vrai qu'il y a une grosse image BMX, mais attention, c'est pas que du BMX. Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour préparer, faire et ranger pour cet événement Vélo Passion numéro 2.
En tout cas, ça mobilise beaucoup de bénévoles, et c'est vrai que c'est bien que tu puisses les mettre à l'honneur, parce que malheureusement, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y aura une troisième édition, alors ?
Écoute, pour l'instant, on est dans la... Vous m'entendez, là ?
Ouais, on t'entend.
Excusez-moi. Pour l'instant, on sait qu'on a créé cet événement-là, et j'ai dit les bénévoles, mais n'oubliez pas que c'est Avignon Tourisme qui organise... principalement l'événement avec l'aide des bénévoles et des coordinateurs. N'oublions pas l'équipe de M. Pingol et la ville d'Avignon. Évidemment, on veut que Avignon Vélo Passion soit un cheval passion, hein, qu'on se retrouve dans 30 ans et qu'on en parle encore. Hein,
Bah en tout cas, c'est bien parti pour. Là, on t'entend un peu moins bien, mais en tout cas, on a vraiment compris... le message, on a bien fait le point justement sur ce magnifique bilan, parce qu'effectivement, pratiquement autant que l'an dernier, avec des conditions météo exécrables, ben c'est vraiment, je trouve, un succès. Et un succès vraiment, bravo. Bravo Laurent, bravo vraiment à toute ton équipe. Et écoute, bonne chance pour la suite, et puis on aura l'occasion de reparler de la troisième édition de l'Avignon Vélo Passion. On l'a perdu, Laura, je crois.
On l'a perdu.
Bon, en tout cas, nous, l'émission se termine. Merci, Laurent Venditelli,
de nous avoir parlé de cette deuxième édition de l'Avignon Vélo Passion. Merci également à Jérôme pour le rugby à 13. Et bien sûr, merci à nos trois invités, Jean-Pierre Scatena et Jean-Louis Essérique pour l'ULM Carpentras. Et merci à Vincent Fabre pour le Vélivol. On vous retrouve bien sûr d'ici la fin de l'année scolaire pour parler de vos événements. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Oui, Jean-Louis.
Le mot de la fin, comme on dit.
Oui, le mot de la fin. Bon,
en tout cas, je veux vous remercier de votre accueil parce que je connaissais pas votre station. Il a fallu que ce soit mon pote là qui me la présente. Mais je ne regrette pas et j'espère pouvoir y revenir. Et puis, je voudrais aussi remercier quand même, ce qui est très important, c'est la COV qui entretient notre plateforme et qui, grâce à elle, nous pouvons aussi en profiter. Quoi. Donc, s'ils sont à l'écoute, merci les gars et venez plus souvent.
C'est vrai que c'est important de le...
Bah, il nous manque encore un truc, je le dis en passant, c'est que si on avait un point d'accueil, ça serait parfait.
Bon, mais en tout cas, le message est passé. Ah. Merci Jean-Louis, merci Jean-Pierre.
Merci
Vincent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, mon petit Jean-Yves. Tu veux dire quelque chose, Jean-Yves ?
Non.
Bon, merci Valérie.
Bonne soirée à tous.
Merci Théo, notre technicien, super technicien de ce soir. Bonne semaine sportive à tous et à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir, merci.